Nous allons maintenant passer au dernier orateur de notre matinée, ancien fellow du Carr Center for Human Rights Policy à Harvard. Alexis Keller est professeur ordinaire d'histoire et de philosophie du droit à l'Université de Genève et professeur invité à Sciences Po Paris. Il est également membre du comité du CICR. Il est notamment l'auteur de Counterterrorism Democracy's Challenge avec Andrea Bianchi et What is a Just Peace avec Pierre Allan. Le titre de sa communication, Au-delà du droit, Penser la paix par la reconnaissance.
Merci beaucoup, Monsieur Mayou. Mesdames, Messieurs, chers amis, tout d'abord, je vous présente mes excuses puisque je n'ai pas les bonnes lunettes. Donc, si vous me voyez m'approcher de mon texte ou m'en éloigner, ça n'est pas un tic ou une posture, c'est tout simplement parce que je ne vois pas parfaitement bien. Comme vous le savez, le concept de reconnaissance a fait beaucoup d'émules et a fait l'objet ces dernières années de nombreuses réflexions en philosophie, en histoire, en relations internationales, en sciences politiques. Et je pense ici aux travaux du grand philosophe Charles Taylor, ou du philosophe allemand Axel Honneth, qui ont beaucoup travaillé sur ce qu'ils ont appelé la reconnaissance culturelle, ou, pour parler comme Ricoeur, philosophe français, la reconnaissance mutuelle. Certains des théoriciens des relations internationales ont également montré que le concept de reconnaissance, j'expliciterai bien sûr après ce que j'entends par là, le concept de reconnaissance a été utilisé, est utilisé, par les États pour être accepté, reconnu, ou tout simplement pour faire des demandes dans la communauté internationale. Alors, vous l'avez compris, aujourd'hui, je vais vous entraîner dans la théorie du droit et l'histoire du droit qui a aussi réfléchi et qui cherche à réfléchir d'une certaine manière aux conditions de réussite d'un processus de paix. Je me suis donc posé et je pose devant vous la question, le principe de reconnaissance peut-il jouer un rôle dans un processus de paix? On parle de substance, justement. Peut-il nous aider à conclure un traité, ce principe de reconnaissance, ou à parvenir à un accord de paix? Permet-il ce que le philosophe Paul Ricoeur appelait la paix des esprits? Favorise-t-il ce principe de reconnaissance le processus de réconciliation entre communautés, notamment après une guerre civile? Dans ma présentation, je répondrai par l'affirmative à ces questions. Je vais tenter de vous montrer que la paix des esprits, que certains, et j'en fais partie, ont assimilé ou assimilent à une paix équitable ou à une paix juste, ou perçue comme telle, passe moins par le droit, et venant d'un juriste, c'est une proposition un peu provocatrice, moins par le droit que par deux formes de reconnaissance de l'ennemi. Ce que j'ai appelé, ce que j'appelle dans ma présentation, la reconnaissance minimale et la reconnaissance maximale. En anglais, thin recognition or thick recognition, qui est une expression que j'emprunte aux anthropologues. J'expliquerai les raisons qui fondent mon raisonnement et je vais essayer de, dans ces 20 minutes, d'illustrer mon propos par des exemples. J'ai coutume de dire qu'il est bien d'être un théoricien, il faut aussi faire le lien entre la théorie et la pratique, et je vais appliquer à moi-même ce que je recommande souvent à mes étudiants. Rassurez-vous, je ne suis pas naïf. L'histoire des traités nous enseigne qu'une paix est possible sans aucune forme de reconnaissance entre les parties en conflit. La paix peut être obtenue par la force. Le plus fort impose sa volonté à la partie la plus faible, ce qui met un terme au conflit et permet de rétablir la paix. Mais quelle paix? La paix peut aussi résulter de la destruction complète de l'adversaire. C'est ce qu'on appelle, en histoire du droit, le modèle de Carthage, si vous me permettez l'expression, qui consacre tout simplement l'annihilation complète de son ennemi. Après la disparition de l'adversaire, le conflit lui-même disparaît de manière presque tautologique. Mais peut-on qualifier ces paix par la force de paix? Je ne le pense pas. Et l'histoire montre, à la suite d'un travail empirique que j'ai fait avec une équipe de collaborateurs, l'histoire montre que ces paix imposées ne durent pas plus que 5 ans. Ce qui est très intéressant quand on fait une recherche empirique de cela durer. Quel est mon raisonnement? Et quel est le contenu des arguments que je veux défendre de mon... Aujourd'hui, force est de constater, vous serez d'accord, je crois, avec moi, pour dire que, et le président Peter Maurer nous l'a rappelé, que les conflits se sont beaucoup diversifiés. On parle en effet en droit de conflits civils, de conflits interétatiques, de conflits armés, de conflits non armés, de conflits asymétriques, de conflits interculturels. Bref, la liste est longue. Mais ce dont il faut se souvenir, c'est que la palette des conflits a beaucoup évolué. La guerre a ainsi pris de nouvelles formes et le droit international, et c'est le cœur de mon propos, le droit de la guerre et de la paix, est démuni face à ce nouveau ou à de nouveaux types de conflits qui émergent. Il n'a pas les instruments, le règlement pacifique des différends qu'il a à sa disposition ne lui permet plus d'y mettre fin à ces conflits. Il y a plusieurs raisons à cela. Pourquoi les instruments que nous avons en droit international public, pour parler large, ne nous permettent plus de régler certains types de conflits? Je vois trois raisons à cela et j'aimerais vous les exposer brièvement. Il y a tout d'abord des raisons juridiques. C'est simple, mais il faut le rappeler, le droit de la guerre, le jus ad bellum, s'applique pour l'essentiel aux relations entre États. En effet, en dépit de toutes les théories récentes sur les nouvelles formes de guerre, l'État se trouve encore au centre, le sujet, du droit international public. C'est un droit qui est centré, qui est pensé souvent par les États, pas seulement par les États, mais souvent par les États et surtout pour les États. Le droit de la guerre, par exemple, ne s'applique pas aux groupes armés non étatiques. Mais pour moi, le plus important, c'est que le droit international, il offre des mécanismes, certes, de règlement des différends, qui n'impliquent pas la force armée, mais ces modes de résolution interviennent avant la venue d'un conflit. Non pas, il ne permet pas de le résoudre. On a parlé d'arbitrage tout à l'heure. L'arbitrage est un des mécanismes possibles pour régler ou prévenir un conflit. La même remarque peut être faite pour le jus in bello, le droit dans la guerre, communément appelé droit international humanitaire. Alors c'est un droit qui s'applique, je dirais, aux conflits, aux acteurs non étatiques, bien sûr, mais il ne traite que des modalités, la manière de faire la guerre, comme vous le savez tous très bien. Il ne crée pas des règles permettant de mettre fin ou d'arriver à un compromis, bref, permettant de faire la paix. Donc, raison juridique, nous sommes limités par les instruments juridiques à notre disposition. Il y a des raisons historiques aussi. Et nous n'aimons pas, nous juristes, nous théoriciens du droit, voir que le droit de la guerre et de la paix a été créé à une époque où les Européens régnaient sur le monde. Le droit international a consacré une vision européenne du droit de la guerre et de la paix. Quand on regarde les nombreux accords de paix signés depuis le XVe siècle, que mon équipe de recherche avait fait d'ailleurs, entre Européens et non-Européens, on voit très bien, jusqu'en 1950, que la forme de paix envisagée est une paix qui se négocie dans des termes, avec des concepts, dans des normes éminemment européennes. Je dis toujours à mes étudiants qui sont tout à fait surpris, puisqu'on leur apprend que le droit, bien sûr, c'est la Bible, j'ai coutume de leur signaler que Jusqu'en 1972, vous aviez des traités de droit international public qui divisaient encore le monde entre États civilisés et États non civilisés. Ce qui vous laisse un tout petit peu penser quand même, les limitations que nous avons. Et il faut garder cela à l'esprit. En codifiant des règles qui excluaient, de jure, de nombreuses entités non européennes, le droit de la guerre, de la paix, a créé une société internationale dont la légitimité est de plus en plus contestée par ce qu'on appelait autrefois les anciens barbares ou les États non civilisés. Attention, ça ne signifie pas que le droit international aujourd'hui ne nous fournit pas des instruments pour réparer, pour faire justice. Mais il faut garder à l'esprit, deuxième raison historique, que le droit international nous fournit des instruments qui sont pensés dans un cadre conceptuel très souvent européen. Troisième raison qui me paraît justifiée de dépasser le droit, C'est des raisons tout simplement sémantiques. Paradoxalement, il n'existe pas de définition juridique d'un accord de paix. Il s'agit d'un terme utilisé à la fois pour désigner des traités entre deux ou plusieurs États et des accords entre un État et des acteurs non étatiques. Ainsi, lorsqu'on étudie des accords de paix, on est immédiatement confronté à la critique ou à la question selon laquelle le terme « accord de paix » n'a pas de signification précise. Les accords de paix, quand on les regarde, sont certes des documents légaux, mais ils sont plus que cela. Ce sont des documents hybrides, souvent nationaux et internationaux, et qui utilisent, pour parler comme un théoricien du droit, un philosophe, des langages extrêmement différents. Il arrive d'ailleurs souvent qu'un accord de paix soit à mi-chemin entre un traité et une constitution. Ça m'a d'ailleurs toujours intéressé au moment du référendum européen en France, sur la confusion juridique qui existait. On parlait de traité constitutionnel européen. On est tout à fait dans ce que j'appelle l'ambiguïté et dans les langages croisés. Il faut aussi rappeler, toujours dans ma troisième raison historique, que la notion même de traité de paix est une notion occidentale. Si la signature d'un accord entérine la fin d'une guerre, c'est une notion qui nous est familière, cette signature, une telle pratique ne se retrouve pas dans toutes les traditions juridiques. Lorsqu'on regarde l'histoire sur le temps long, l'historiographie montre très bien que les populations en Asie ou au sud de l'Amérique, et ça n'est pas des toutes petites communautés insignifiantes, emploient d'autres types de documents et d'autres techniques pour entériner, signer un accord de paix. Vous pourrez d'ailleurs faire la même remarque pour la ratification, qui est un acte éminemment occidental. Fondamentalement donc, et c'est, je termine ici mes trois justifications, les coutumes, les conventions, les traités, les chartes que constituent les lois de la société internationale ne se prêtent pas exclusivement à une interprétation juridique. Ils relèvent d'une approche beaucoup plus large qui doit intégrer, me semble-t-il, des jugements politiques et des jugements moraux. Si nous ne voulons pas, comme l'ont suggéré deux auteurs américains un peu provocateurs, je suis sûr que Peter connaît l'article en 1999, « Give a war a chance », qui était un article tout à fait provocateur, il faut repenser les rapports entre la paix et le droit et dépasser une vision exclusivement juridique de la paix. Comment ? En réintroduisant, et j'en viens au cœur de mon argument, dans un processus de paix, ce que j'ai appelé la « thin recognition », la reconnaissance minimale, et la reconnaissance maximale, thick recognition, de la partie avec laquelle on négocie. J'emprunte ces expressions à un grand anthropologue que, pour ma part, j'admire beaucoup, Clifford Geertz, qui a, au fond, défini les individus en deux dimensions. Une partie épaisse, c'est-à-dire le thick, ce qui constitue notre culture très profonde, et le thin, qui constitue la partie modulable, variable, de ce que nous sommes. Le principe de reconnaissance minimale, qu'est-ce que j'entends par là? Le principe de reconnaissance minimale, thin recognition, implique pour moi la reconnaissance de l'autre en tant que tel, en tant qu'agent autonome, ayant un langage propre et une histoire propre. Vous allez me dire, j'y viendrai après, c'est assez normal et c'est assez fréquent. Ce principe implique clairement le droit d'exister et de continuer d'exister comme agent autonome. Ça m'a toujours fait sourire de voir dans la pratique des groupes vous contestant le droit d'exister, mais voulant négocier avec vous. C'est une chose qui est assez amusante. Alors, ils vous disent, vous n'avez pas le droit d'exister, mais on aimerait bien négocier. Alors, il paraît y avoir un problème. Pour ma part, cette reconnaissance minimale, thin recognition, est faite de trois composantes, et je vous les présente brièvement. Une composante anthropologique. C'est la reconnaissance de la différence entre moi et l'autre. Cette composante anthropologique doit être comprise de manière négative. Elle n'exige pas la compréhension empathique et approfondie de l'autre ou de sa culture. Il ne s'agit pas du faire jeter Weberien, si je puis dire, ou de l'altérité au sens du grand philosophe français Emmanuel Lévinas. Il s'agit simplement de reconnaître l'autre dans ce qu'il est. Ça ne veut pas du tout dire que je sois d'accord, que je suis en phase ou que j'ai de l'empathie avec celui avec qui je négocie. Il y a également une composante juridique à la reconnaissance minimale. C'est-à-dire, je dois reconnaître que celui qui est en face de moi, dans la négociation, a la compétence pour prendre une décision au nom d'un groupe ou d'une communauté. J'ai toujours souri dans les négociations internationales de voir que les parties voulaient choisir les personnalités avec lesquelles elles négociaient. En principe, c'est un peu compliqué et il faut accepter que les communautés, les nations, les États choisissent leurs représentants. Mais donc, composante juridique, il faut reconnaître à l'autre partie la compétence pour prendre une décision. On le dirait, pour parler comme un juriste, la capacité à négocier et à signer. Une troisième composante de ce que j'ai appelé la reconnaissance minimale est une composante diplomatique. Chaque partie doit reconnaître à l'autre partie qu'elle a un rôle incontestablement politique pour résoudre le conflit. Là encore, lorsqu'on regarde l'histoire des négociations, l'histoire internationale, on se rend compte que la tentation a été très grande pour des parties en conflit de, finalement, non seulement d'écarter certains négociateurs, mais de refuser le rôle clé que jouent certaines parties dans la négociation ou pour l'obtention d'un conflit. On le voit, si vous me permettez de parler d'un peu d'actualité, une seconde, on le voit très bien dans le débat sur la Syrie, sur le rôle de l'Iran. Vous avez eu tout un débat pour écarter l'Iran d'une solution à la crise syrienne. J'ai toujours trouvé ça surprenant quand on sait le rôle que l'Iran joue dans la région. En fait, la reconnaissance minimale, telle que j'essaie de vous la présenter, est en fait toujours présente dans le droit des traités modernes. Dans la plupart des accords de paix, que ceux-ci débouchent sur une paix négative, une paix froide, cold peace, une paix des braves, ou autre, la reconnaissance minimale est au fond toujours là. Si la reconnaissance minimale s'adresse à la dimension universelle d'un individu ou d'une communauté, ce qui m'intéresse, moi, c'est la reconnaissance maximale, qui s'adresse, elle, à la dimension particulière d'un individu ou d'une communauté. C'est l'autre dimension de la reconnaissance que j'aimerais maintenant vous exposer. Et ma vision de la reconnaissance maximale, je l'ai dit, doit beaucoup aux travaux des anthropologues, Clifford Geertz ou Marshall Salim, ainsi qu'aux travaux des philosophes comme Taylor ou Honneth que j'ai cités tout à l'heure. J'appréhende cette reconnaissance maximale comme, au fond, la compréhension de l'identité et des traits culturels principaux de soi-même, certes, mais de l'autre partie aussi. Et les deux termes clés ici, c'est bien sûr, vous l'avez compris, c'est compréhension et identité. Le terme comprendre ici est interprété d'une façon sociologique. Alors cette fois, dans le sens du Verstehen de Max Weber, c'est-à-dire, au fond, le rôle de l'empathie ici est important. Elle permet non seulement de comprendre une action ou un sentiment, mais également de lui donner un sens. La compréhension ainsi définie permet d'adopter jusqu'à un certain point la perspective de l'autre. Très concrètement, si vous négociez avec votre pire ennemi, mais vous avez intégré son histoire, sa mémoire, sa culture, vous pouvez vous positionner par rapport, anticiper le cas échéant, sur un certain nombre de positions qu'il tiendra ou qu'il va tenir. La compréhension ainsi définie, je le répète, permet d'adopter jusqu'à un certain point la perspective de l'autre. Mais attention, la sympathie n'est pas nécessaire. Elle n'est pas indispensable du tout dans ce cas-là. Pour comprendre l'identité de l'autre, je cite une formule que j'aime beaucoup, il n'est pas du tout nécessaire de s'assimiler à l'autre, absolument pas. Il y avait cette formule que j'aime beaucoup, il n'est pas nécessaire d'être César pour comprendre César. Concrètement, une telle approche signifie que les parties qui négocient en vue de la paix doivent s'efforcer de saisir, ce qui ne suffit pas, je le répète, adhérer du tout, les traits principaux de la culture de l'autre, ainsi que les éléments constitutifs de son identité. Identité, justement, c'est le deuxième terme sur lequel j'aimerais m'arrêter. Je n'appréhende pas l'identité comme une variable sociologique fixe. Je l'appréhende comme une variable sociologique malléable, évolutive, qui comprend certes la culture, la langue, la religion, les coutumes, les traditions, mais cette identité, elle est fluctuante. Je n'appartiens pas à celles et ceux qui croient qu'une identité, elle est un donné qui, historiquement, ne bouge quasiment jamais. Je crois qu'il est nécessaire, dans ma démarche théorique, de rompre avec les approches monologiques, justement, fixes, de l'identité au profit d'une approche plus interactive. Par exemple, Il faut accepter l'idée que le discours narratif que tiennent parfois les parties en conflit qui négocient, ce discours, il peut évoluer, et il évolue. On a vu des situations de paix, de négociation de paix, où chacun évoluait dans sa propre identité. Je vous donne un exemple qui est très frappant. Lorsqu'on étudie, je l'ai fait avec mon équipe, des milliers de traités de paix, il y en a un qui est intéressant de ce point de vue-là, c'est ce qu'on a appelé en 1998 le Good Friday Agreement entre les parties en conflit de l'Irlande du Nord. Ce qui est très intéressant, c'est quand vous regardez la négociation depuis le premier jour jusqu'à la fin, vous vous rendez compte que la conception de Irishness, comme on dit en anglais, c'est-à-dire de l'identité irlandaise, a évolué. Et que les parties sont venues avec des demandes très précises, et ces demandes ont évolué parce que leur propre identité, leur discours sur elles-mêmes au pluriel a changé. Donc l'identité peut, dans un processus de négociation, j'ai envie de vous dire, doit sans doute, dans un processus de négociation, changer. Dans la pratique, la reconnaissance maximale peut prendre plusieurs formes. Soyons pratiques, donnons des exemples. Les parties, et c'est le cas nord-irlandais, peuvent écouter, comprendre le récit historique de l'autre partie. Ce qui ne veut pas dire y adhérer, attention. On peut également recourir à ce qu'on appelle au pouvoir symbolique de la négociation. Où négocie-t-on ? Dans quelle langue ? Avec quelle pratique ? Quel rite ? Ce sont des questions que le principe de reconnaissance maximale doit mettre sur la table. J'ajoute que dans un processus fondé sur cette forme de reconnaissance maximale, parfois débouche une forme concrète de reconnaissance. J'aimerais ici vous donner deux exemples. Lorsque toujours on prend l'accord le Good Friday Agreement de 1998, il y a dans le préambule et les premiers accords le mot « acknowledgement »,« we acknowledge » à peu près 30 fois. Toutes les parties reconnaissent, mise en pratique du principe de reconnaissance maximale, l'identité de l'autre, les différences qui sont reconnues à l'article 5, à l'article 4 également. Il y a une véritable reconnaissance des identités de chacune des parties. Un deuxième exemple qui est très frappant, que tout le monde cite, c'est un peu bateau, je m'en excuse, mais qui est intéressant tout de même, c'est l'exemple sud-africain. L'exemple sud-africain de 1993, qui a fait l'objet, comme vous le savez, d'un accord et qui a été ensuite approuvé, c'est 91, 93 et 94, mais dans les trois, notamment dans l'accord qui abolit les lois ségrégationnistes, ou en tout cas, le terme n'est pas exact, mais les lois d'apartheid, vous avez clairement également une reconnaissance des identités et le principe de reconnaissance est non seulement admis, mais mis en pratique avec la fameuse Truth and Reconciliation Commission. Donc il y a véritablement une volonté de mettre en pratique ce principe de reconnaissance. Je dois avouer tout de même que ma théorie, mon argument, souffre d'un certain nombre d'écueils. Je suis sûr que vous avez mis le doigt sur un certain nombre de faiblesses théoriques. Je vous donne déjà quelques armes pour me faire battre. Il est clair qu'il n'existe pas de critère objectif pour déterminer quand une communauté, un individu se sent reconnu. En ce sens, ce principe n'est jamais totalement validé. Et j'en suis, en philosophie, tout à fait conscient. Mais acceptons au moins l'idée que ce principe de reconnaissance, dans sa dimension minimale et maximale, peut trouver un point d'équilibre. Un grand philosophe américain, John Rawls, parlait de désaccord raisonnable, qui nous permet d'avancer. Si la reconnaissance minimale est un acte formel, voire mécanique, la reconnaissance maximale exige, elle, une attitude plus complexe face à l'altérité. La paix devient dans ce contexte, dans le contexte de la reconnaissance maximale, une vraie relation, et je cite Ricoeur, d'une partie avec l'autre partie. Quelques mots pour conclure, je m'excuse, j'ai été un petit peu long. Rassurez-vous, je n'ai pas voulu ici vous apporter une recette miracle, ni même fonder une nouvelle théorie de la paix. Je suis un modeste juriste et philosophe, mais je suis aussi pragmatique, et j'essaie de chercher ou de rendre possible la paix dans des cas de figure que le droit international ne permet plus de régler. Les acteurs asymétriques, faibles, forts, comment résoudre un conflit lorsque vous avez un conflit très asymétrique ? un acteur très faible et un acteur très fort. Entre acteurs ayant un statut juridique différent, acteurs étatiques, acteurs non étatiques, ou entre acteurs tout simplement venant de cultures différentes. Comment devrions-nous négocier entre un Indien et un Français ou un Allemand, un Chinois et un Japonais, etc. Fondamentalement, le principe de reconnaissance que j'ai essayé de vous présenter vise à rétablir l'équité dans la communication, au-delà des relations asymétriques entre le fort et le faible. Il offre aux parties négociantes un instrument de médiation inclusif et non pas exclusif. Il permet de réintégrer le juste, si vous me permettez d'employer un mot chargé d'histoire, dans le langage du droit, en conciliant l'esprit d'effectivité des normes et le principe d'équité. L'heure est grave, sans vouloir être dans le pathos, je m'en excuse, mais mon expérience comme membre du comité du CICR m'oblige à le dire. L'heure est grave. Selon les statistiques récentes, et le président nous en a parlé tout à l'heure, il y a aujourd'hui 41 conflits dits armés qui sévissent dans plus de 30 régions du globe aujourd'hui. Si la majorité de ces conflits impliquent exclusivement des États, plus de 20 d'entre eux mettent en présence un acteur étatique et un acteur ou un État et un acteur non étatique. Par ailleurs, comme le président nous a dit, le CICR, dans la majorité de ses missions, de ses délégations, est depuis plus de 36 ans dans certains endroits. Donc nous sommes confrontés à ce qu'on appelle en anglais des intractable conflicts. Il est donc urgent de proposer une nouvelle approche de la paix permettant de réussir là où le droit est impuissant à réussir. Et c'est pour moi particulièrement vrai, je terminerai là-dessus, c'est particulièrement vrai pour les conflits que je qualifierais de interculturels, qui mettent en opposition des cultures extrêmement différentes. Plus personne en effet ne doute de l'urgence de résoudre ce type de conflit. Les tensions raciales, nationales, ethniques, religieuses et linguistiques sont devenues des facteurs très importants dans les relations internationales et tout indique que la désorganisation massive, le mouvement et l'interaction des peuples engendrés par la mondialisation vont accélérer les antagonismes de type culturel. Je ne résiste pas à vous citer une phrase de celui que je considère comme le plus grand philosophe anglais du XVIIe siècle, Thomas Hobbes. Thomas Hobbes, d'autant plus qu'on en fait le chantre de la guerre, en 1651, dans son Léviathan, soulignait déjà l'importance de ces conflits dits, qu'on appelle aujourd'hui, qu'on le qualifie d'interculturels, en précisant, quand il les analysait, que la cause principale de ces conflits, je cite Thomas Hobbes, est un mot, un sourire, une opinion qui diffère de celle de son voisin, en quelque sorte un signe de mésestime. Un simple signe qui amène le rejet de l'autre et qu'elle rejaillisse sur eux, excusez-moi, quelque autre signe de mésestime que celle-ci porte directement sur eux-mêmes ou qu'elle rejaillisse sur eux, étant adressée à leur parenté, à leurs amis, à leur nation, à leur profession, à leur nom. Chacun se sent heurté, chacun veut faire la guerre. Fin de citation. Cette analyse est encore pertinente de nos jours, me semble-t-il, mais il faut la dépasser. Il nous faut aujourd'hui comprendre dans quelle mesure les solutions apportées par Hobbes et les théoriciens du droit de la guerre et de la paix, sur lesquels repose le droit international, font en fait maintenant partie du problème et nous empêchent de penser la paix en termes d'équité et surtout en termes de reconnaissance. Je vous remercie pour votre attention.